Bienvenue dans les podcasts La Maison. Le message vous est apporté par Aude Trippé. Bonne écoute.
Bon. Bonsoir. Donc, comme David l'a dit au tout début, quand il a dit « Allez, on va commencer », il a dit « Aujourd'hui, on va commencer une petite série courte sur l'Église ». Après, il a expliqué pourquoi elle était courte et du coup, il n'a pas développé. Donc voilà, c'est moi qui ai le privilège de faire le premier message de cette série sur l'Église, dans le cadre de l'Église La Maison. Et c'est cool parce que du coup, je dis ce que je veux. Alors que les autres, il va falloir qu'ils réfléchissent à ce que j'ai dit et à dire autre chose. Donc du coup, moi, c'est moi qui commence. Et comme c'est moi qui commence... Je me suis dit que le plus simple, c'était de commencer par la naissance de l'Église pour savoir ce que c'est l'Église et ce que ça nous enseigne. Donc le passage dans la Bible qui nous parle de la naissance de l'Église, c'est le livre des Actes, que vous pouvez lire parce qu'il est super trop cool, c'est genre un roman d'aventure, mais en histoire vraie, quand même assez cool. Et je ne vais pas prendre tout, je vais un petit peu extraire les choses que je voudrais souligner en particulier. Et ça veut dire que je vais commencer au chapitre 2, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, c'est le jour de la Pentecôte. Joyeux anniversaire. Parce que c'est écrit donc, acte 2, chapitre 1, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Donc dans le chapitre 1, on nous a expliqué « tous ensemble », c'est 12 apôtres, à peu près 120 personnes au total en comptant les disciples. On ne sait pas s'ils ont compté que les mecs, parce qu'à l'époque, des fois, ils faisaient ça. Mais en tout cas, ça fait quand même un bon nombre de personnes. Ils sont tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est space, parce que c'est genre, les gars, ils sont pêcheurs, quoi. Enfin, il y en avait un, il était médecin, mais la plupart d'entre eux, c'était des gens simples, quoi. Et tout à coup, ils se mettent à sortir du charabia. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire, mais ça les dépasse, c'est plus grand qu'eux, ça sort, blablabla. Et le truc qui est complètement dingue, c'est que les gens qui sont de l'autre côté de la route, ils comprennent ce que ça veut dire. Pour eux, ça a du sens. C'est pas du charabia. Puisque c'est écrit juste après, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, oui, parce qu'il y a le bruit du vent violent, donc forcément, il se passe quelque chose, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Alors, il y a une question qui, à mon avis, reste mystérieuse, même s'il y a certainement des théologiens qui sont sûrs qu'ils savent. Mais pour moi, je ne sais pas. Est-ce que, au milieu du charabia, chacun entendait un truc différent et se disait « Ah, lui, il parle ma langue. Ah, elle dit quelque chose que je comprends. » Ou est-ce qu'ils avaient tous la traduction directe dans les oreilles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe un truc. Parce que s'il y a vraiment tant de bruit que ça, en tout cas, moi, quand il y a trop de bruit, je ne comprends rien de toute façon. Mais... ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome. » Donc ça fait du monde quand même, hein. Juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Il se passe un truc qui dépasse tout le monde. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Alors Pierre, je fais un petit résumé quand même, hein. Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ensuite, le gars, il prêche pendant un chapitre. C'est vachement bien ce qu'il dit.
merci.
C'est vachement bien ce qu'il dit, parce que au verset 41, donc là il a fait quand même 30 versets de prédication à peu près, au verset 41, il vient de terminer par beaucoup d'autres paroles, donc il a dû prêcher longtemps, hein, parce que le verset 40, c'est « Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie !» Donc en gros, tournez-vous vers Jésus, les mecs, sinon vous êtes mal. Le chemin de la Le chemin de la perdition mène à la perdition. Le chemin du salut mène au salut. Voilà, vous avez tout compris. Donc choisissez le chemin du salut. C'est une meilleure idée. Donc, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Ça le fait, quoi. Ils étaient 120 au début de l'histoire, là, ça y est, boum, ils sont... Juste, il a prêché. Bon, entre-temps, il y a eu quand même le Saint-Esprit qui est passé, ça a fait la différence, mais 3000 personnes sont ajoutées à leur nombre. C'est là qu'on dit historiquement qu'arrive la naissance de l'Église. Ok ? Avant, c'était des disciples de Jésus, c'était juste des gars un peu bizarres qui suivaient un type encore plus bizarre, mais qui était sympa, qui avait un enseignement spirituel. Bon, ok, voilà, c'est leur petite secte. Hein. Tout à coup, boum, 3000, maintenant, ils deviennent une Église. Aussi parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont être obligés de s'organiser. Un petit peu plus tard, on va voir comment ça se construit. Parce que forcément, quand on est 3000 personnes, il faut commencer un petit peu à apprendre à vivre ensemble. D'accord ? Ça va être mon point bientôt, vous allez voir. Alors, une fois qu'ils sont 3000, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est toujours dans Acte 2 et on va lire les versets 42 à 47, c'est-à-dire la fin du chapitre. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain » et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. » On ne va pas vous demander de faire ça, respirez. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ça va ? Respirez, on ne va pas vous demander de tout vendre, de tout mettre dans le pot qui est là-bas. C'est pas ça le... C'est... En fait, personne ne leur demandait. Hein. En tout cas, ce n'est pas ce qui est écrit. Parce que Pierre, dans toute sa prédication que je vous ai sautée, parce que ce n'était pas mon point d'aujourd'hui, il n'a pas à un seul moment dit « Bon, bah les gars, si vous voulez être sauvés, mettez votre argent dans nos poches. » À aucun moment, personne n'a parlé de ça. C'était quelque chose qui venait directement du Saint-Esprit. Ils étaient, pour eux, c'était naturel, en fait. Quelque chose changeait tellement dans leur vie, ils allaient faire partie de cette famille-là, de cette tribu-là. Et donc, bah, tout ce qu'ils avaient, ça venait dans le pot de la tribu. Il y avait une partie de ça qui était culturelle aussi. Donc voilà, c'était comme ça que ça s'est fait au début de l'Église. Ça fait longtemps que l'Église s'est organisée différemment. Et ça va. Mais si le Seigneur vous dit de le faire, ce n'est pas à moi de vous dire de ne pas le faire, mais je ne vais surtout jamais vous demander un truc pareil. En tout cas. Il y a trois grands axes, en fait, que j'ai envie de retirer de ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait dire. On pourrait parler trois semaines, mais je n'ai pas trois semaines. Le premier axe, c'est l'axe de la relation qu'on a ensemble avec Dieu. C'est-à-dire, c'est une équipe, ils sont tous ensemble, depuis le début, tous ensemble, ils sont là, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Ils sont ensemble dans cette pièce, ils sont tous tournés vers Dieu. En même temps, ils viennent d'être un peu fracasses, quoi. Parce que pendant 3 ans, ils ont suivi un gars bizarre qui enseignait des trucs super cool, qui leur disait... Enfin, eux, ils disaient tous, ouais, c'est le Messie, il y a un truc, c'est fini d'avoir attendu le Messie toutes ces millions d'années, tout ça. Et le mec, il meurt sur une croix. Et dans leur conception, dans leur compréhension de ce que ça voulait dire être le Messie, c'était juste pas possible. Ensuite, ils apprennent qu'il est ressuscité. Tout à coup, ils comprennent plein de trucs qu'il avait déjà enseignés, mais qu'ils n'avaient rien compris. Le gars, il passe 40 jours avec eux. Pendant ces 40 jours, il leur enseigne encore, il fait encore des prodiges, c'est un truc de fou. Et après, il disparaît en leur disant, il y a le consolateur qui va venir, vous inquiétez pas, vous serez pas tout seul. Mais ils comprennent rien de nouveau. C'est quoi ce consolateur? C'est quoi cette affaire? Donc là, au début de la Pentecôte, au début du texte, c'est le consolateur qui vient. Le Saint-Esprit, c'est un autre nom qu'il a, le consolateur, paraclète, en grec. Et c'est à ce moment-là, du coup, que l'Église naît. Mais en fait, ils sont en rade au moment où il arrive. Ils pataugent, quoi. Ils comprennent pas. Et leur réflexe, c'est d'être ensemble à chercher Dieu. Dans ce moment où ils sont un peu « on ne sait pas ce qui se passe », ils sont ensemble à prier. Et c'est pour moi un point essentiel de l'Église. On ne va pas dire qu'on est maintenant, en ce moment, dans notre génération, dans une période où tout le monde sait exactement où on va, parce que sinon on est des gros menteurs. Mais on est plutôt dans une période où tout le monde est un peu en plein... Je ne vais pas dire galère, c'est un peu fort, mais bon, il y a des flottements quand même. On est d'accord? Oui, merci. Ouf, je ne suis pas toute seule à le penser. Le réflexe des disciples, c'est de s'unir et de chercher Dieu. C'est un point qui est important pour nous dans la maison, parce qu'on sait par expérience, par l'expérience de nos vies et par l'expérience des autres qu'on a vus autour de nous, on sait que plus on est paumé, plus on va trouver la paix dans la présence de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on va trouver toutes les réponses. Parce que Dieu, il ne va pas nous sortir un roll-up et nous faire alors point 1, point 2, point 3, prenez les stylos, soulignez en rouge. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, ensemble, il nous conduit, ensemble, il nous donne cette présence du Saint-Esprit qui nous permet ensuite de comme décoder ou en tout cas trouver nos marques, trouver suffisamment de paix pour savoir quel est le pas suivant. Okay ? C'est une valeur qui est importante pour nous en tant qu'Église, de la maison, de se dire, voilà, quand ça devient un peu trop flou, là, le bon réflexe, c'est de se mettre ensemble et de chercher Dieu. Ça, c'était mon premier point. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'ils sont tournés aussi les uns vers les autres. Alors, là, l'expression de ça, elle est très forte. Genre, ils vendent tout, leurs propriétés, leurs biens, ils mettent tout en commun et ils redistribuent selon les besoins. Donc, en fait, si ça se trouve, le gars le plus riche, il a le moins de besoins, en fait. Donc du coup, une fois qu'il a tout vendu, il lui reste plus qu'une banane. Voilà. Parce qu'en fait, il n'a pas très faim. Mais le mec à côté, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas mangé, donc à lui, on va lui donner plus de pain. Ok ? Ça, c'était équitable et pas forcément juste. Vous voyez la différence ? On ne va pas donner tout à la même chose, on va faire selon les besoins. Les uns les autres. Je vais un peu plus développer les uns les autres. Je vais reprendre mes notes. Les uns les autres, c'est ce qui nous fait grandir, en fait. Quand on apprend à connaître Jésus, c'est comme quand on apprend à connaître n'importe quelle autre personne. La première fois que vous m'avez vu, surtout Florentin, je l'ai un peu surpris tout à l'heure. Il se dit, c'est qui cette folle? D'abord, elle connaît mon prénom, je ne l'ai jamais vue de ma vie, elle me saute dessus.
Moi, bah,
avec Dieu, c'est... Ouais. Avec Dieu, c'est un peu pareil, dans le fond, parce qu'il nous connaît déjà, hein, juste pour dire. Et du coup, quand, la première fois qu'on le rencontre, on peut avoir un moment de flottement. De se dire, en fait, il se passe quoi, là? Pourquoi il me parle par mon prénom? Ouais, c'est pas forcément exactement comme ça que ça se passe, mais il peut y avoir un moment de flottement. Mais, à force d'avoir passé du temps avec moi, à force de m'avoir vu, vous allez comprendre mon humour, vous allez reconnaître ma voix... La première fois que je vous téléphone, il faut que je vous dise « Ouais, salut, c'est Aude, tu sais, la femme de David, je vous situe. » Au bout d'un moment, je vais vous appeler. Bon, d'abord, vous avez mon numéro enregistré, mais en plus, vous reconnaissez ma voix. Donc, même si je vous appelle avec le téléphone de quelqu'un d'autre, je vais dire « Allô, ah, salut, Aude. » OK ? Bah, peut-être pas aujourd'hui, vous en êtes là, mais vous savez que quand on apprend à connaître quelqu'un, au bout d'un moment, on reconnaît sa voix tout de suite. Oui ?
Oui.
Soyez là. Vous êtes français, vous avez le droit de répondre. Vous n'êtes pas un des Suisses silencieux, neutres et polis. Pas tous. Non mais avec Dieu c'est la même chose. Mais comment on apprend à reconnaître sa voix? Comment on apprend à reconnaître son caractère? C'est les uns les autres, en fait. Pour moi, je vois pas ailleurs que dans l'Église, parce que c'est le canal que lui il a choisi pour faire ça. Et c'est le moment où je vais donner une partie de témoignage. J'étais jeune, j'avais peut-être 24 ans, quelque chose comme ça. Et je venais de terminer une école d'évangélisation par le théâtre. Ça veut dire que c'est une année qui était mise à part, on était 6 étudiants, où on a appris des techniques de théâtre, c'est une école de théâtre, mais l'objectif, c'était de partager l'évangile par le théâtre. Et à la fin de ça, ben, fallait trouver quoi faire d'autre après. Et j'avais vraiment pas envie, mais je savais qu'il fallait que je rentre en France. Ça se passait en Angleterre. Et je me disais, je vais faire quoi en France? En plus, les Français, quoi. Hein, tu vois, quoi. Et puis, quelqu'un que je connaissais en Angleterre connaissait quelqu'un qui... finalement, j'ai été mise en contact avec une équipe à Angers qui organisait des comédies musicales qui avaient pour objectif de partager l'évangile. Et du coup, j'ai été mise en contact avec ces gens-là qui m'ont dit « Ah, bah, viens voir ce qu'on fait parce que ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui nous aide justement pour la partie, parce qu'on a des bons musiciens, mais pour la partie mise en scène, tout ça, des fois, c'est un peu faible, donc ça pourrait être bien d'avoir ton apport, tout ça. Bon. » Donc, je décide que je m'installe à Angers. Et je suis accueillie là-bas par une organisation chrétienne qui avait sa propre tribu. Ils ont leur propre code, leur propre compréhension des choses. Et ça ne cadrait pas du tout avec les miennes. Et pourtant, j'étais jeune et j'étais encore souple et flexible et prête à apprendre. Mais en fait, on ne s'est pas du tout compris. Bon, c'était un petit peu dommage. Parce que certainement qu'on aurait pu faire du bon travail. Mais on n'a pas réussi à s'emboîter, quoi. En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver ma place au milieu d'eux. Et au même moment, donc en arrivant à Angers... J'ai rencontré un pasteur qui s'appelle le pasteur Bernard de Lépine, qui n'est pas parfait, mais pour moi est un homme absolument fantastique. C'est vrai. Et il m'a dit, on s'est rencontrés dans la rue, il m'a dit, viens à l'église, tu verras. Bon. Puis après, il m'a dit, mais tu rencontreras d'autres églises dans la ville, tu vas trouver ta place, tu viens d'arriver, il faut que tu rencontres, tu auras plusieurs chrétiens jusqu'à ce que tu trouves ta tribu. C'était une parole de sagesse. Mais j'ai jamais obéi. Parce que je suis allée le premier dimanche dans son église et en fait, la personne qui m'avait dit « Viens, je t'héberge jusqu'à ce que tu trouves un logement », entre-temps, elle avait décidé que j'étais restée chez elle assez longtemps. Donc le vendredi, elle m'avait dit « Ben lundi, il faut que tu déménages ». Donc moi, je suis arrivée à l'église le dimanche matin, puis j'ai dit au pasteur « Ben en fait, je sais pas où je vais dormir à partir de demain soir. Si tu pouvais faire une annonce pour que quelqu'un me trouve un petit coin dans sa maison jusqu'à ce que je trouve une solution, ce serait bien ». Et le gars, il m'avait rencontré dans la rue la semaine précédente, quoi. Il ne me connaissait pas plus que ça. Mais il a fait une annonce à la fin du culte. Il a dit, voilà, il y a une jeune fille qui vient d'arriver. Elle s'installe à Angers. Elle n'a pas encore trouvé de logement. Si quelqu'un peut l'héberger, le temps qu'elle trouve, comment s'installer ici. Il n'a pas fini son annonce que la jeune fille qui est assise à côté de moi, qui a mon âge, se tourne vers moi. Elle dit, bah tu viens dormir à la maison. Bah franchement, pourquoi tu fais une annonce? Et puis du coup, elle lève la main, elle dit « Non, mais dérange pas toute l'église, elle va venir chez moi !» Genre, c'est bon, quoi. Et c'était l'évidence, en fait, de son ton. Enfin, pour elle, c'était une question débile. Bien sûr que j'allais dormir chez elle. Mais elle m'avait rencontré à 9h le matin, et là, il était midi, quoi. Enfin, non, mais c'était un peu surréaliste, quoi. Et tout s'est passé comme ça dans cette église. Mais c'était un truc de fou. J'ai eu, quelques mois plus tard, j'ai eu un accident stupide de quelqu'un qui a fermé le coffre d'une voiture avec beaucoup de détermination sur ma tête. Voilà. Donc, j'ai fini à l'hôpital, j'étais un peu shootée. Ils m'ont donné un traitement, ils m'ont dit « Vous allez tout bien aller, rentrez chez vous ». Et en fait, j'ai développé une allergie aux médicaments qu'ils m'ont donné. Alors, c'est un peu ballot parce que le temps que tu percutes que c'est ça le problème, tu vas vraiment mal. Donc le dimanche après l'accident, j'étais en train de prendre mon traitement bien consciencieusement. Plus ça allait mal, plus je le prenais bien comme il faut. Moins ça allait bien, c'était super. J'arrive au culte comme ça. Et pendant la louange, je ne tenais pas debout en fait. J'étais vraiment pas bien, donc je me rassieds. Donc, la louange commence, je me lève. Seigneur, tu es bon. Je vais m'asseoir, Seigneur. Je m'assieds et aussitôt que je suis assise, la dame qui est derrière moi, elle me dit... « Tu te lèves, je t'emmène à l'hôpital, y en a marre !» Ok. Bon, d'accord. Et en fait, elle était infirmière et elle a vu ma réaction. Elle s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire un scanner, il faut trouver ce qui ne va pas. En plus, elle est toute seule à Angers, on ne peut pas la laisser comme ça. Pareil, elle me connaissait depuis 2 mois que j'allais au culte, mais on ne s'était même pas vu en dehors, rien, quoi. Elle me met dans sa voiture, elle m'emmène à l'hôpital, elle pète un plomb à l'hôpital. Vous l'avez accueillie n'importe comment l'autre jour, maintenant ça suffit, elle repart pas d'ici tant qu'elle n'a pas eu un scanner. Moi j'étais là, oui madame, oui madame. J'étais complètement shootée, j'étais pas bien du tout. Mais j'étais très impressionnée par sa virulence. Et ils m'ont pris, ils m'ont dit ok, on va faire un scanner, on va faire tout ce qu'il faut. Bon. Et donc c'est là qu'ils ont compris qu'en fait le problème c'était le médicament et que si j'arrêtais le médicament, il me faudrait, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, genre 4-5 jours le temps que mon organisme en soit vraiment libéré et qu'après tout irait bien. Donc je rappelle le pasteur et je lui dis ben je peux rentrer à la maison sauf que c'est elle qui m'a emmenée donc je peux pas rentrer, puis de toute façon je pourrais pas conduire quoi. Est-ce que tu peux venir me chercher ? Il me dit j'arrive, pas de problème, il me ramène chez moi et en me ramenant chez moi, il me dit bah écoute, je t'ai pris une assiette, ma femme avait cuisiné, je t'ai pris une assiette, comme ça t'as ton repas pour ce soir. Et j'ai rien dit, mais j'ai pensé, ah bah ça tombe bien, parce que ça faisait quand même un moment que j'avais de la peine à rester debout assez longtemps pour me préparer à manger. Mais je l'ai pas dit. Et puis j'ai dit merci beaucoup, c'est très gentil, bon ben voilà, je rentre chez moi, je vais me coucher. Et puis, le lendemain vers midi, ça sonne à ma porte. Je vais voir et c'est une autre dame de l'église qui me dit « Ouais, je passais devant chez toi, je t'ai pris un sandwich à la supérette à côté. Si tu veux, j'ai 5 minutes, on papote un peu, comme ça t'es pas toute seule. Je voulais juste voir si ça allait mieux. » Bon, je mange avec elle. Et le soir, il y a quelqu'un qui arrive « Ouais, je t'ai préparé une assiette, ma femme elle a fait un ragoût, elle en fait toujours beaucoup trop. » Et comme ça, pendant 3 jours, sérieusement, pendant 3 jours, à tous les repas, il y a quelqu'un de différent qui a sonné à ma porte. Et à la fin du 3e jour, j'ai appelé mon pasteur. J'ai dit « Bernard, t'as fait un rota ou quoi là ? T'as dit aux gens, il faut qu'on s'organise pour qu'elle ait toujours à manger ?» Non, mais c'était tellement incroyable. Il a rigolé, il a dit « Mais de quoi tu parles ?» Je lui ai dit « Mais écoute, déjà, je ne leur ai jamais dit bonjour à l'église. » Parce que c'était quand même une église à l'époque, on était peut-être 100, c'était une grande église. Il y a des gens, je ne leur ai jamais parlé, ils sonnent chez moi pour m'apporter à manger, c'est quand même un peu n'importe quoi. Il dit « Ouais, il y a une ou deux personnes qui m'ont demandé où tu habites. » Je lui ai dit « Mais tu n'as rien organisé. » Il me dit « Non. » Et là, j'ai compris qu'en fait, ce qui se passait, ça dépassait tout le monde en fait. Même eux, ils ne savaient pas qu'ils arrivaient au bon moment parce que ce soir-là, j'avais rien à manger. Ils n'en avaient aucune idée. Juste chacun est venu... quand ça le dérangeait le moins. Et chacun est venu à un moment qui m'a béni mais sauvé quoi. En vrai, hein, je ne sais pas comment j'aurais fait parce que je ne tenais pas debout. Le 4e jour, je me suis réveillée, j'ai dit « Seigneur, ce midi, je me fais des pâtes parce que je pense que ça va, mais ce soir, je ne suis pas trop sûre. Hein. » En vrai, j'ai dit ça. Hein. Le midi, je me suis dit « Ouais, c'est bon, ça va, je me fais des pâtes. » J'ai fait des pâtes. Le soir, j'étais un peu vers 5 heures comme ça, je dis « Non, mais Seigneur, je pense que ça va aller. » En vrai, j'étais... Dès que je me levais, j'avais le vertige et tout. Je dis « Non, mais Seigneur, ça va aller, ça va aller. » Ouais, tu parles. À 6 heures, il y a une voisine de l'immeuble, qui était, mais alors pas du tout dans la foi, qui sonne, qui me dit « Ouais, je voulais te dire, tu sais, l'autre jour, tu m'as rendu un service. Ouais, je t'ai pris une pizza, juste merci, quoi. » Je suis restée comme ça, j'ai cru que j'allais pleurer. J'étais là, merci, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai la tête qui tourne, mais merci. Et voilà. Et donc, j'ai pas eu besoin de compagnie parce que j'ai pu gérer de mettre une pizza au four, ça allait quand même. Mais c'était un truc de fou. Et je pense toujours à ce moment-là quand je pense à ce passage les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. En fait, dans la parole, rien que dans l'évangile de Jean, pourquoi tu t'es mis en veille, toi ? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Rien que dans l'évangile de Jean, le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, il est cité tel quel 3 fois, rien que dans l'évangile de Jean. Il est ensuite redit dans 1 Jean 4:7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il y a plein d'autres trucs. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Priez les uns pour les autres. Consolez-vous les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Pleurez les uns avec les autres. Riez les uns avec les autres. Il y a tout un tas d'enseignements dans la Bible qui sont donnés soit directement par Jésus, soit dans les enseignements qui suivent. Sur l'importance de la bienveillance, l'importance de la communauté, l'importance de prendre soin les uns des autres. Et pour moi, ce moment-là, dans l'église baptiste, où j'ai été si bien entourée, en fait, pour moi, c'est un de ces exemples complètement surnaturels et parfaits. Et c'est mon rêve de voir ça arriver ici. En vrai, c'est tellement notre vision pour cette église. Et on voit déjà des choses se passer comme ça. On sait déjà que vous... lundi dernier, quand on dit « Ouais, on fait un pique-nique là », on voit des messages « Ouais, qui c'est que je peux prendre dans ma voiture? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a trouvé un moyen de transport ?» Vous êtes déjà en train de prendre les soins les uns des autres. Et ça nous dépasse. Et ça doit nous dépasser. Ça ne peut pas être papa et maman qui s'occupent de tout. Parce qu'en fait, dans l'église, tout le monde est à la fois papa et maman, et frères et sœurs, et enfants, et fils, et filles. On a tous un rôle à jouer vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et en même temps, on est tous de toute façon frères, puisque le Père, c'est Dieu. Alors bien sûr que ceux d'entre nous qui ont plus de maturité dans la foi, on sera plus souvent dans un rôle de papa ou de maman, parce qu'on va pouvoir plus vous enseigner les choses de la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vos frères et sœurs. Et ça ne veut pas dire que dans d'autres contextes, on n'a pas le rôle... d'un parent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai l'impression de parler chinois, mais ça va?
Ça va.
Bon, parfait. Et pour nous, ça, c'est tellement important les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Et c'est pour ça que ça fait partie de notre logo, là, aimer, réconcilier et accepter. Aimer, accepter, réconcilier. Parce qu'on veut être une maison de bienveillance, parce qu'on veut être une maison où vous n'allez pas trouver le jugement, où vous n'allez pas trouver le « ah ben oui, mais parce qu'il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça ». Parce que notre relation avec Dieu, ce n'est pas un code de morale, ce n'est pas un code de conduite, ce n'est pas un « bon, alors si tu fais ça, tu iras au paradis, si tu fais ça, tant pis pour toi, tu vas brûler en enfer, c'est comme ça, c'est dommage ». Non, dans mon expérience, Dieu il va guérir une chose, et tout à coup tu as un mauvais comportement, qui est peut-être directement lié, ou toi, tu ne vois pas le lien, mais ce comportement-là, il va se réaligner. Et ce n'est pas à moi de dire, tu réalignes ça d'abord, et après Dieu, il va te guérir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mon job à moi, c'est de vous prendre là où vous en êtes, d'écouter ce que vous dites, et de dire, ah, mais ça dont tu es en train de parler, Dieu, il en dit ça. Et après, c'est à Dieu de faire son travail. Après, c'est à Dieu de venir toucher nos cœurs, de venir rassembler les pièces qui sont... casser, de venir mettre de l'or là où il faut recoller les morceaux, parce que c'est comme ça qu'il fait. Mais si moi, je commence à vouloir recoller vos morceaux, non seulement je vais faire du travail moche, mais en plus, je vais faire du travail qui n'est pas durable, et au final, vous êtes encore plus cassable. Ce n'est pas une bonne idée. Et donc, à aucun moment, on va attendre de vous ici que vous soyez parfaits. Ce n'est pas notre vision de l'Église. Notre vision de l'Église, c'est que tous, on soit d'accord d'être perfectibles. Que tous on soit d'accord d'entendre à un moment « Ah, tiens, faut que je regarde ce qui se passe là. » Parce que peut-être que ce comportement-là, il y a un truc qui coince. Ou cette réaction-là de ma part, peut-être qu'il y a un truc qui coince. Et de tous être d'accord d'entendre ce qu'on a à dire les uns les autres. Après, ça ne veut pas dire justement que n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi, puisqu'on est dans la bienveillance. Ça ne veut pas dire que je vais aller voir Céline et je vais lui dire « Oui, alors écoute, les collants jaunes, c'est vraiment pas possible. Franchement, c'est pas du tout dans la mode. » Non, ça, c'est pas un comportement qui est acceptable. Par contre, si vraiment il y a un problème avec les collants jaunes, il n'y en a pas, mais je suis partie là-dessus, et que moi, je viens avec des collants jaunes, non, on va faire dans l'inverse. Du coup, par contre, porter une robe à fleurs, on est d'accord que c'est vraiment un scandale. Et du coup... c'est vraiment, ça va pas du tout, quoi. Oh là là, c'est choquant pour tout le monde, quoi. Il faut me sortir tout de suite. Et ben, peut-être que Melchior, un jour, il va me dire, Tu pourrais réfléchir à la question des robes à fleurs une fois. Juste. Non, je dis ça, je te le pose là. Voilà, tout va bien. Je t'aime, tout va bien. Ok ? Bon, j'ai donné un exemple débile parce que c'est plus rigolo, mais en vrai, on ose se dire les choses. Ça, c'est notre vision de l'Église. On ose se dire les choses tant qu'on reste dans la bienveillance. Parce qu'on doit tous grandir ensemble. Parce que c'est les uns les autres. Je crois que j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais j'ai presque fini. Dans notre vision de l'Église, l'Église, c'est le lieu de la croissance et de la guérison. C'est le lieu de la famille. C'est pour ça que ça s'appelle la maison. Quand on est ici, nous, notre rêve, c'est que vous soyez le plus à la maison qu'à la maison. Parce que des fois, à la maison, c'est pas très... Enfin, en tout cas, moi, dans ma maison de mes parents, je peux pas vraiment me détendre. Parce que c'est compliqué. Parce que si je suis pas attentive à ce qui se passe, ça va finir par péter. Donc, je suis un petit peu en mode survigilance. Attention, est-ce que tout va bien se passer ? Notre rêve, c'est que ici vous soyez tellement à la maison que jamais vous avez besoin de réfléchir à ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être... On est dans un refuge. On n'a pas besoin d'être en survigilance. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qu'on va dire, de ce que l'autre va dire, de ce qu'il va penser, de ce que moi je vais penser, de est-ce que c'est sécure ou pas. C'est le lieu de la sécurité. C'est le lieu de la guérison. C'est le lieu où tu peux être toi. Ça, c'est notre rêve. Et puis, Dieu, il nous aime tellement qu'on peut être qui on veut. Il nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas comme on est. Parce qu'il nous fait grandir aussi. Parce que c'est ça qui se passe dans une famille. On grandit. Et dans cette église à Angers, dont je vous ai parlé avant, pour moi, c'est une église dans laquelle j'ai énormément grandi et j'ai guéri énormément de choses. Parce que, franchement, j'étais pas une fille facile à l'époque. En vrai, je les ai plusieurs fois secouées et je leur ai donné du travail. Parce que je faisais pas comme il fallait. Mais il y a rarement eu des gens pour me confronter durement. Il y en a eu des fois qui ont été maladroits. Mais dans l'ensemble, il y avait plutôt Bernard ou un autre, ou Jean-Claude, qui étaient des papas, puis qui venaient me voir, puis qui me disaient « Tiens, on pourrait prendre un café, il y a un truc dont il faudrait qu'on parle. » Mais jamais, jamais je me suis sentie agressée, jamais je me suis sentie remise en question. J'étais des leurs. Et ça, c'était clair par toutes les petites choses qu'on ne peut pas dire, sur lesquelles on ne peut pas mettre des mots. Mais par la façon dont ils ouvraient leurs bras quand j'arrivais, par le sourire qu'ils avaient sur leur tronche quand j'arrivais, c'était clair, j'étais des leurs. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. On passe nos vacances, on va dormir chez le pasteur de l'Épine, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Je ne pense pas qu'il va accueillir n'importe qui chez lui, mais nous, on a plusieurs fois pu dormir en famille chez eux parce que c'est mon papa. Et c'est hyper précieux. C'est notre rêve pour ici aussi. Que vous vous sentiez tellement chez vous que dans 10 ans, vous pouvez nous appeler et dire « je repasse sur Toulouse, je peux dormir chez toi » et on a un lit, on se débrouille, on fait du camping s'il faut, mais on a de la place pour vous. Parce que vous faites, c'est la maison, c'est le cœur, c'est la famille. Oh, c'est de la famille ! Et en fait, voilà, c'était ça le dernier point que je voulais donner. Donc j'en suis à ma conclusion, si jamais il y en a des gens qui ont besoin de le savoir. Il y a des gens qui ont besoin de le savoir. Comment on peut savoir ? Comment ? Parce que je disais avant qu'il y a une autre organisation chrétienne avec laquelle j'ai voulu travailler. En fait, ça n'a pas du tout matché. Je n'ai pas pu rester avec eux. Et qu'est-ce qui fait que ça marche dans une famille et pas dans une autre ? Il y a plein de petits trucs qui font, il y a qui on est, il y a le genre de vision qu'on a, le genre de sensibilité qu'on a, il y a plein de choses qui font qu'on est bien dans une famille ou pas. Et vous ne serez jamais jugé si vous partez d'ici pour aller dans une autre église, parce que tant que vous avez votre famille, vous faites quand même partie de notre famille. On a le droit d'être cousins, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la même maison, tout va bien. Et on n'a aussi non plus aucun problème avec d'autres églises. Mais il va y avoir un groove, il va y avoir un rassemblement qui va se faire, et pour moi, il est opéré par le Saint-Esprit. Et lui, ça ne lui pose pas de problème qu'avec sa chanson à lui, tu ne vas pas vibrer, mais avec sa chanson à lui, oui. Donc tu vas venir chanter avec lui. Ça ne veut pas dire que sa chanson, elle est nulle. Elle fait vibrer d'autres personnes. Et pour moi, c'est le Saint-Esprit qui nous rassemble en famille. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui fait que quand je suis arrivée, quand j'ai croisé le pasteur Bernard, je vous dis, je n'ai pas obéi quand il m'a dit « Va visiter les autres églises pour voir avec qui tu es bien ». Je n'ai pas obéi parce que je savais que j'étais bien avec eux. Parce que le premier dimanche, cette fille, elle s'est tournée, elle s'appelle Lydiane, elle fait toujours partie de nos amis. Elle s'est tournée, elle a dit « Bah bien sûr, tu viens dormir chez moi ». Et c'était tellement évident que c'était devenu ma famille aussitôt. Et pour moi, c'est le Saint-Esprit qui fait cette évidence, parce que c'est pareil, elle me connaissait depuis 2 heures quand elle m'a invitée, j'ai habité chez elle pendant un mois quand même. Et elle avait un petit studio. Il fallait que ça marche. Ça s'est super bien passé. Ce sentiment d'appartenance, cette loyauté spontanée, cet amour qui vient nous unir, pour moi, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. C'est le même Saint-Esprit qui est venu se déposer et qui, en un jour, a rajouté 3000 personnes à leur nombre. Bon, si aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rajoute 3000 personnes,
il faut changer de local.
Là, on est mal, parce que ça ne tient pas ici. Mais s'il le fait, il va trouver comment nous organiser la logistique, parce qu'il sait faire avec ses bonnes idées. Mais en tout cas, pour moi, c'est sa présence qui fait qu'on s'unit, qu'on devient une famille et qu'on devient assez important les uns pour les autres pour pouvoir dire, déjà pour pouvoir dire, tu sais, aujourd'hui j'ai besoin d'aide, parce que ça prend un petit peu de courage de dire aujourd'hui ça ne va pas. Et puis, pour pouvoir aussi sortir de sa routine et sonner chez quelqu'un et dire, hey, t'as eu un accident, tu tiens pas trop debout, tiens viens, je t'amène, ma femme, elle a fait une assiette de ragoût en trop. A priori, elle n'a pas fait une assiette de ragoût en trop, mais c'est pas grave, on s'est débrouillé, on avait 5, on a fait une 6e, puis on vient partager. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et pour moi, c'est notre invitation. Pas seulement ce soir, mais dans la vie de notre Église, dans les choses qu'on vous propose, c'est cette vision-là qu'on a de l'Église. Les uns les autres, ensemble, et tourner vers Dieu. Et tourner aussi vers le monde, parce que si on veut en rajouter 3000, il faut bien qu'on aille chercher les autres, hein. Il y en a encore plein d'autres qui ont besoin de cette union-là qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas à les rajouter à notre nombre, ou en tout cas à leur proposer. Après, c'est Dieu qui le fait. Pour moi, c'est ce qui se passe quand on prend la communion. Tiens, viens, on va amener ce qu'il faut. Quand on prend la Sainte Cène, merci, on est en train de faire la déclaration qu'on est ensemble, parce qu'on prend ensemble, qu'on prend soin les uns des autres, parce qu'en général on prie les uns pour les autres quand on le fait, et qu'ensemble on va se tourner aussi vers les autres qui ont besoin encore de cette présence, de cette famille, de cette appartenance. Et à mon avis, c'est dans cette appartenance qu'on peut continuer à comprendre qui il est. Autant c'est lui qui nous amène dans l'équipe, autant c'est dans l'équipe qu'on comprend de mieux en mieux qui il est, et qu'on peut guérir les choses qui nous empêchent de voir qui il est. Je ne parle toujours pas en chinois ? Super. Donc pour moi, quand on prend la communion, on déclare ces choses-là et donc on lui donne ce pour quoi il a payé. Parce que son sacrifice, il n'était pas pour rien. Il n'est pas allé sur la croix juste pour pouvoir dire « Regardez les mecs, je suis un super-héros, dans 3 jours je reviens vivant. » Il est allé sur la croix pour que nous, on ait le droit de faire partie de cette tribu et d'être libérés par sa présence et d'être ensemble, d'avoir une famille, d'avoir une tribu qui prend soin de nous et dont on prend soin. Et donc pour moi, je vais vous inviter à venir communier maintenant, mais pour moi, c'est vraiment lui donner ce pourquoi il a payé. C'est vraiment déclarer devant lui qu'on sait que c'est à ça que ça sert, son sacrifice. Ça sert à ce qu'on soit ensemble et à ce qu'ensemble, on s'approche de lui pour qu'il puisse continuer à nous libérer et à en libérer d'autres avec nous. Ça va ? Je vais juste prier, puis après on va pouvoir prendre la communion. On va faire comme d'habitude, vous prenez chacun, puis ensuite vous mettez en groupe, vous priez les uns pour les autres. Et ma prière à moi, c'est que pendant ce temps, vous puissiez encore recevoir une portion du Saint-Esprit qui vienne encore vous consoler, encore vous bâtir. Ça marche ? Jésus, merci pour le sacrifice que tu as fait et pour les enseignements que tu nous as donnés pour comprendre à quoi ton sacrifice a servi. Merci pour les prodiges que tu as opérés et pour les enseignements que tu as donnés pour nous montrer qu'aujourd'hui on puisse comprendre de quoi tu nous rachètes, qu'est-ce que ce sacrifice paie. Et ce sacrifice paie pour toutes les solitudes, ce sacrifice paie pour toutes les sentiments d'être perdu, ce sacrifice paie pour tout ce qui nous éloigne de t'appartenir, d'appartenir à la famille que tu nous proposes. Et Jésus, merci pour le corps que tu as accepté d'être meurtri pour que nous en formions un corps. Un corps qui va apprendre à fonctionner, apprendre à agir de plus en plus selon tes valeurs, de plus en plus avec ton cœur, avec l'amour que tu as pour nous et que tu nous proposes d'échanger les uns avec les autres et d'échanger avec le monde. Jésus, merci pour le sang que tu as été d'accord de faire couler pour qu'on apprenne de mieux en mieux à vivre dans ta paix, à pas être troublé par ce qui se passe partout autour de nous, mais à grandir dans ta paix. Parce qu'on sait que, comme je disais au début, quand on est perdu, c'est auprès de toi ensemble qu'on va trouver quel est le pas suivant et un pas à la fois. Tu nous montres le chemin. Saint-Esprit, je te demande de continuer à te révéler à nous, de continuer à être le consolateur dans nos vies. Là où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, là où il y a peut-être quelque chose qui nous fait mal, qu'on sache que dans ta présence, on va trouver la paix, même si on n'a pas les réponses à nos questions. Mais ta paix dépasse toute compréhension. Donc Saint-Esprit, continue à te déverser, qu'on puisse continuer de recevoir ta présence, recevoir tes enseignements, recevoir ta paix au milieu de tout ce qu'on vit. Et que ce temps de communion, ce soit un de ces temps qui nous permettent d'accéder à ta présence. Ensemble et les uns avec les autres. Amen.
C'était Aude Trippé pour les podcasts La Maison. Si toi aussi tu recherches une famille en Christ, n'hésite pas à nous contacter. On sera très heureux de te recevoir entre frères et sœurs.